Gloire à Dieu, nous prenons la parole dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Il est écrit ceci. Luc chapitre 8. À partir du verset 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici qu'il vint un homme du nom de Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Et se jetant à ses pieds, il suppliait Jésus d'entrer dans sa maison. Car il avait une fille unique d'environ 12 ans, qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans qui avait dépensé tout son bien chez les médecins et qui n'avait pu être guérie par personne. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. À l'instant, la perte de sang s'arrêta. Voilà. Nous allons prendre le même texte dans Marc 5. Marc 5, nous recommençons à partir du verset 21. Jésus regagna en barque l'autre rive et une fois de plus, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui le vit, se jeta à ses pieds. Et le suppliant instamment en disant, « Ma fillette est à toute extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Un détail très important qui se trouve dans l'évangile de Marc, verset 28. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celui qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit, toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Voilà. Il y avait toute une foule qui entourait Jésus. De sorte que quand il dit, mais qui m'a touché? Les gens se sont dit, mais quel est le problème? Tout le monde te touche, en quelque sorte, tout le monde te touche. Parce qu'il y a toute une foule qui l'entourait. Donc, au moins les gens qui étaient là, les plus près, certainement le touchaient. Et c'est ce qu'on lui a dit. Mais Seigneur, ses disciples dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Il dit, mais attends, tout le monde te touche. Il dit, non, non, je sais que quelqu'un m'a touché, puisqu'une force est sortie de moi. Et la femme est venue dire, c'est moi qui t'ai touché. Mais comment on sait qu'elle a touché le Seigneur? Parce que on ne parle pas de toucher physiquement, puisqu'il y a beaucoup de gens qui touchaient physiquement le Seigneur. Elle a touché dans la pensée le Seigneur. Elle a touché le Seigneur dans la foi. Comment on le sait? Parce qu'elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher les vêtements du Seigneur, je serai guérie. Donc cette femme a cru au Seigneur au point de se dire, ce Seigneur-là, ce Sauveur peut faire quelque chose pour moi. C'est ça mon exhortation. un sauveur personnel. Jésus veut être ton sauveur personnel. Pas le sauveur dans l'église. Non, ton sauveur à toi. Vous savez, dans la vie, beaucoup, les gens ratent beaucoup de choses parce qu'ils restent dans la généralité, dans la foule. Ils sont là dans la foule. La foule va à gauche, ils vont à gauche. La foule va à droite, ils vont à droite. Ils suivent le mouvement de tout le monde. Avant de s'engager dans quelque chose, ils veulent que toute la famille soit d'accord. Les cousins, les cousines, que tout le monde dise « Ah oui, c'est bon ». Maintenant, là, lui, il est d'accord, il s'en va. Au moment de faire des grands choix, de changement de vie, beaucoup de gens se font avoir par la foule. Ils n'ont pas une relation personnelle, mais c'est la foule qui leur indique quel goût ils doivent avoir. Il y en a même pour acheter un tableau. Donc, ils cherchent les experts. Qu'est-ce que les experts disent? Attends. Pour regarder un tableau, toi-même, tu choisis ce qui est beau. Il faut que les experts te disent ce qui est beau. Et tes yeux, ça sert à quoi? C'est ainsi que sont beaucoup de personnes. Ils marchent en fonction du mouvement, de la mode. Et ils ratent. Et vous savez, beaucoup de gens ratent le salut parce que ils ne veulent pas réfléchir sur Dieu personnellement. Tu dois réfléchir personnellement. L'histoire de Dieu, c'est une question personnelle parce qu'au jour du jugement, on sera seul. Ça ressemble au jour du salaire. Quand tu vas recevoir ton salaire, tu vas seul. Tu ne vas pas avec les membres de ta famille, avec des amis. Non, quand tu vas prendre ton chèque, tu es seul face au patron. Donc le jour du jugement, tu seras seul. Ce n'est pas une question de mouvement. Jésus veut être ton sauveur personnel. Tu dois méditer ça, tu dois réfléchir à qui a créé le monde, qui a fait tout cela. Comment je peux trouver la solution? Il y a des gens qui ont réfléchi à ça, qui se sont dit, parce que certains se disent, il y a beaucoup de religions, je choisis quoi? Je ne fais rien. Ah non, analyse toi-même, cherche toi-même, c'est une question personnelle. Ils disent, mais on va suivre qui? Il y a mes cousins à gauche qui disent, c'est telle voie. Et les autres cousins à droite qui disent, c'est telle autre voie. Je suis qui? Je ne fais rien. Ah, ça c'est faux. Tu es dans la masse des neutres. Et c'est dangereux. Nous devons faire notre choix personnel. Réflexion personnelle. Méditer personnellement. Questionner le Créateur personnellement. Beaucoup ont trouvé le Sauveur en le questionnant personnellement. En demandant, mais qui es-tu? Il a répondu. Il a répondu. Qui es-tu? Il a dit qui il était. Mais plein de gens sont comme cette foule-là qui entourait Jésus. Mais tu entoures le Sauveur. Vous imaginez, tu as très faim, tu es là à regarder un poulet rôti qui est là devant, tu regardes seulement. Attends, tu vas couper le morceau vite, hein, parce que ça peut finir. Ben oui, ils sont là. Mais attends, vous entourez celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga. Chacun le suivait comme ça, il accompagnait Jésus. Bien-aimé, cette femme a dit, quoi? Moi, je souffre de perte de sang, ça fait 12 ans. Et Jésus est là. Aujourd'hui, mon problème doit finir. J'ai touché même le bord de son vêtement. Je crois qu'il est tout puissant pour que juste le bord de son vêtement me guérisse. Voilà quelqu'un qui avait foi, qui a fait un travail personnel de dire, il peut être mon sauveur personnel. Pas le sauveur global d'Israël seulement, le sauveur global du monde entier, mon sauveur personnel. Et dans la vie de beaucoup, même des chrétiens, cette vie-là n'est pas fructueuse parce que Jésus n'est pas leur sauveur personnel. Il n'y a pas une discussion avec lui sur leur avenir, sur ce que Dieu veut pour eux. Il y a juste l'effet de groupe de l'Église. Et qu'on le veuille ou pas, il y aura des problèmes tôt ou tard. Parce que, comme on voit dans Jean chapitre 21, Jésus donne une prophétie sur Pierre. Et Pierre dit à Jésus, mais pour Jean, ça va être quoi? Jésus dit, pour Jean, ça va être ce que je voudrais. Ce n'est pas ton problème. que je veuille qu'il ne meure pas. Où est ton problème? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, à un moment donné, quand on est dans l'effet de groupe, on aura l'impression que les autres sont bénis, toi tu n'es pas béni. On aura l'impression que Dieu s'occupe des autres, pas de toi. Mais c'est normal. Tu n'as pas de discussion avec lui. Ce n'est pas ton sauveur personnel. C'est le sauveur du groupe. Mais qu'est-ce qu'il a à voir avec toi? Tu es juste dans le groupe, tu accompagnes. Il n'y a pas une relation personnelle. Il n'y a pas une discussion pour savoir qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur. Il n'y a pas une marche personnelle. Il n'y a pas cet échange avec lui. Tu n'as rien décidé avec lui. Tu n'as rien discuté avec lui. C'est normal, tu fais partie d'une foule. Qui suis? Qui a le sauveur là? Vous allez me dire, ah oui, mais peut-être que eux, ils n'avaient pas de problème. Qui n'a pas de problème sur terre? Qui n'a pas de problème? Et même s'ils n'avaient pas de problème, aujourd'hui, tu peux être, comment dire, dans un HLM avec 4 chambres. Bon, imagine maintenant que on t'apprend que le roi d'Arabie Saoudite, c'est ton cousin éloigné et bien-aimé. Donc tu vas dire, moi j'ai pas de problème, je suis dans HLM, 4 chambres, je suis bien, il y a le robinet qui coule, l'eau coule, il y a l'électricité. Non, tu vas dire, mais il est mon cousin, mais c'est l'occasion d'avoir un château. Donc même si ces gens-là qui entouraient Jésus n'avaient pas de problème du genre de cette femme-là, de perte de sang qui coulait depuis 12 ans, ils pouvaient améliorer leur vie. Ils pouvaient améliorer leur relation avec Dieu. Ils pouvaient se dire, mais tiens, c'est lui qui a la solution en tout. Donc la telle question que je me suis toujours posée, aujourd'hui je vais la lui poser. J'ai un oncle qui souffre de telles choses, moi je vais approcher Jésus pour mon oncle. N'est-ce pas qu'il y avait un monsieur qui était venu pour sa fille, Jaïrus? Le début de l'histoire commence avec ça. Jaïrus qui vient au pied de Jésus dit, il y a ma fille qui est en train de mourir. Voilà des gens qui l'avaient pris pour leur sauveur personnel. Jaïrus n'a pas regardé à la foule, les gens allaient se moquer de lui. Toi qui es chef de la synagogue, tu viens te prosterner devant ce rabbin inconnu. Jaïrus n'a pas regardé à ça, il a dit, celui-ci peut sauver ma fille. C'est ça qui compte pour moi. Mais bien aimé, non seulement Jésus peut sauver, il pouvait sauver la fille de Jaïrus, non seulement il pouvait guérir cette femme-là, il peut tout faire. Est-ce qu'on comprend? Tout faire. Il peut régler tout. Et plus encore, il nous réconcilie avec Dieu le Père qui nous a créés. Par son sang versé à la croix. Par son sang versé à la croix. Vous savez, c'est comme si vous allez quelque part où votre oncle, il a déjà payé tous les billets. Quand vous arrivez, il dit, entrez. Hein, entrez. Donc, il y a le portier qui est là, le gardien qui est là. Lui, il a vu le nombre de billets. Vous savez, même quand on va à l'aéroport, on arrive, il y a la personne qui a tous nos billets. Il commence à dire, tel tu passes. Parce qu'il a tout payé. Jésus à la croix, il a crié, tout est accompli. C'est lui seul qui peut vraiment délivrer. Parce qu'à la croix, il a pris nos maladies, il a pris tous nos problèmes, il a pris nos péchés, ce qui nous empêchait de retrouver notre Créateur, ce qui nous empêchait d'aller au ciel. Il a tout pris. Donc, il a le droit de dire, allez, maintenant, entre. Mais, il y a une condition. Tu dois le considérer comme ton sauveur. Pas le sauveur du groupe. Attention avec l'effet de foule. Restez toujours dans l'effet du groupe. Non, c'est ton sauveur personnel. Vous savez pourquoi on n'avance pas dans les milieux chrétiens aujourd'hui? Parce que Jésus n'est pas le sauveur personnel des gens. Du coup, l'appel que chacun a ne peut pas se manifester parce que c'est un appel qu'on entend personnellement. Quand on a dit à Abraham, va tuer ton fils, il a entendu ça seul. Même sa femme n'était pas au courant. C'est personnel. Et c'est ce qui a fait d'Abraham le père de la foi. Quand il a voulu tuer son fils, Dieu a dit, non, tu ne le tues pas. Maintenant, je sais que Abraham, tu m'aimes. Et le chemin d'Abraham a été aplani. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes considérés comme les descendants d'Abraham par la foi. Il a été trouvé grand Parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Il avait un échange personnel. Il n'a pas suivi l'effet de groupe. Vous savez, l'effet de groupe, c'est quoi? C'est le prêt-à-porter. Quand tu entres dans un magasin, tati ou je ne sais pas quoi, est-ce que tu vas réclamer, je veux un pantalon plus long, on va te dire, tout est là. Qui n'a pas entendu déjà cette réponse-là? Tu arrives là, tu dis, mais je cherche quelque chose un peu plus long, on te dit, tout est là, prêt-à-porter. Débrouille-toi avec ce qu'il y a là. Mais quand tu es dans le sur-mesure, sauveur personnel, tu entres, tu dis au tailleur, bon, je veux que tu serres un peu ici, à la poignée. Bon, pour le pantalon, tu rajoutes 4 cm. Ça, c'est le sur-mesure. Donc, quand tu vas sortir, c'est ton pantalon, vrai ou faux. Mais le prêt-à-porter, parfois, tu arrives à la maison, c'est devenu court. Surtout moi, j'ai souffert beaucoup de cette affaire. Dans le magasin, sur place, tellement tu as du mal à trouver. Dès que tu trouves plus ou moins, j'ai trouvé plus ou moins de ma taille. Je dis, ah, c'est bon cette fois-ci. Quand j'arrive à la maison, ça devient court. Ça, à cause de quoi? Prêt à porter. La foule. On met là tout, on met là, beaucoup de pantalons, allez, beaucoup de chemises, allez-y. Prêt à porter, il y a des gens qui sont là. Ici, il y a les adventistes, il y a les témoins de Jéhovah, les catholiques. Allez, ça c'est le prêt à porter. Je choisis un truc là. Non, choisis Jésus-Christ. Rencontre Jésus. Cet homme, je ne sais pas comment expliquer, il veut être ton sauveur personnel, pas une histoire de groupe. C'est-à-dire, là, tu peux lui dire, c'est très long le manche, raccourcissez les manches. Ça, c'est le sur-mesure. Tu veux dire, je veux des boutons rouges et non des boutons verts. Sur-mesure. Peu t'apporter, tu vas prendre seulement, tu mets. Plus ou moins, ça va. Tu vas faire comment? C'est le moins cher. Et même quand c'est cher, tu vas faire comment? La personne qui a fait la couture n'est même pas en face de toi. Vrai ou faux? Tu es en face de toi. Les vendeurs, c'est tout que tu as en face de toi. Ils vont te dire, mais monsieur, on va voir. Mais si tu es dans le sur-mesure, la personne qui te vend est là aussi et la personne qui coud est là. Ça, c'est sauveur personnel. Jésus veut être notre sauveur personnel. Marcher avec nous. Travailler avec nous. Parler avec nous. Discuter face à face. Mais Seigneur, tu as promis telle chose dans ta parole. Mais comment je ne vois pas? On discute avec lui. Seigneur, mes enfants ont faim. Tu parles avec lui. C'est ton sauveur personnel. C'est important. Vous savez, nous n'avons pas été sauvés d'une manière générale. Il est écrit que Dieu connaît même le nombre de nos cheveux. Donc, il connaît chaque personne. Quand il arrive dans Luc 19, nous allons lire Luc 19. Luc 19. Et il ne connaît pas les gens dans cette ville. À Jéricho, il arrive à Jéricho. Luc 19. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors, un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux. « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Zachée veut voir Jésus. Jésus le voit sur un arbre. Est-ce que Jésus a dit, monsieur, descend? Non. Jésus l'a appelé par son prénom. Comment lui va savoir son prénom? Parce que Dieu nous connaît tous. Il connaît tous les humains dans l'humanité. Il nous connaît par nos prénoms.
Il a dit, Zachée descend. Zachée est surpris. Comment il me connaît? Mais oui, Dieu nous aime. Je crois que ça a dépassé Zachée. Il se savait mauvais. Il se savait haï. Mais comment ce maître-là, ce sauveur qui nous vient du ciel, comment il me connaît? Du coup, Zachée a compris que Dieu l'aimait pour le connaître ainsi. Et quand Jésus entre chez lui pour manger, Zachée dit, à partir d'aujourd'hui, je change de vie. Il a compris que Dieu le connaissait. C'était son sauveur personnel. Vous savez, en quelque sorte, notre président, il nous connaît tous en quelque sorte parce que, ayant tous soit carte de séjour, soit des cartes d'identité, nous sommes enregistrés par l'administration. En quelque sorte, puisque l'administration, ça dépend du président, c'est comme si le président nous connaissait tous. Mais est-ce qu'il nous connaît? Non. Mais c'est en quelque sorte. Et c'est ça l'idée que beaucoup de gens ont de Dieu. Ils ont une idée que vaguement, il connaît tous les humains. C'est faux. Il nous connaît personnellement. C'est ça la bonne nouvelle. Mais ça demande une prise de conscience aussi personnelle. Si tu ne prends pas conscience que Dieu te connaît personnellement, il veut faire affaire avec toi personnellement, ça restera dans le flou, dans le vague. Comme nous aujourd'hui, on sait que le président, il nous connaît tous d'une certaine manière parce que on est tous dans les registres de l'État. Mais il ne nous connaît pas en réalité. C'est nous qui le connaissons, c'est lui le président Macron. Mais lui ne nous connaît pas. Mais c'est ça la capacité, la différence avec Dieu. Dieu, lui, nous connaît personnellement. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu vas à l'Élysée, tu vas frapper. On dit, mais vous cherchez quoi? Non, mais je connais le président Macron. Qu'est-ce que les gens te diront? Mais lui, est-ce qu'il vous attend? Est-ce qu'il vous connaît? C'est ça ils vont poser comme question. Mais aujourd'hui, tu peux aller frapper chez Dieu. Poum, poum, poum. Un ange te demande, c'est qui? Tu donnes ton prénom. Il dira, bon, vous êtes sérieux? Oui. Eh bien, on va lui dire que vous le cherchez. Ah, ils vont dire à Dieu, il y a Jeannine qui veut te voir. Ah bon? Ben oui, Dieu te connaît. Oui, oui, Dieu te connaît. Alors, comment ne pas saisir cette occasion que tu puisses frapper au château de Windsor? C'est ça, chez la reine d'Angleterre. Tu frappes au château de Windsor, tu dis, c'est Jean-Claude. Entrez, monsieur. C'est pour votre salut. Oh oui, mais entrez. Ça, c'est notre Dieu. Un sauveur personnel. Il connaît, tu peux frapper, tu dis, c'est moi. Toi qui? Tu donnes le prénom, il sait, il connaît. Ah d'accord, enfin tu viens. Enfin, je t'attendais. Non seulement il connaît, il dit, mais je t'attendais. C'est extraordinaire. Maintenant qu'il t'attendait, maintenant qu'il t'a eu, tu vis ta vie chrétienne dans une logique de foule, dans une logique de groupe. Ah, bien-aimé, non. Soyons sérieux avec notre salut. Il a été gagné à grand prix. Maintenant qu'on est sauvé, on est le fils du patron, le fils du boss. Maintenant, on peut davantage encore être, il peut encore davantage être notre sauveur personnel, notre partenaire personnel, davantage. Pas d'une manière égoïste, pas dans l'esprit de division, oh c'est mon sauveur, non. C'est dans la logique que je peux lui parler face à face, je peux faire des projets avec lui, mais en même temps dans l'ensemble avec les bien-aimés. Mais c'est mon sauveur personnel. Qu'est-ce qu'il pense de moi? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Tant qu'on n'a pas franchi ce cap, il y a un problème. On n'est pas encore chrétien peut-être. Je vous ai souvent parlé de Maurice Ray. Maurice Ray a fait des cours de pasteur. Il est devenu des cours de théologie plutôt. Et à l'issue de cela, dans son organisation, on l'a nommé pasteur. 3 ans de travail dans l'église, rien ne changeait. Et il est venu un jour, il a appelé un pasteur aîné. Il a dit à ce pasteur, mais ça fait 3 ans que je travaille, rien ne change dans l'église. Ils ont commencé à discuter. Et en discutant, le pasteur aîné lui dit, mais je comprends ton problème, tu n'es pas chrétien. Il dit, quoi? Moi, je ne suis pas chrétien, mais je suis pasteur, moi. J'ai un diplôme de théologie. Il dit, mais tu as tout ça, mais tu n'es pas chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a signé un contrat avec Dieu. Un contrat personnel. Donc, voilà Dieu, moi, je viens te donner ma vie. Et toi, occupe-toi de moi, dirige-moi, sauve-moi, lave-moi de mes péchés et fais de moi ton enfant. Un contrat personnel. Toi, tu n'as pas fait ça. Toi, tu as suivi un parcours. Tu étais peut-être dans une famille chrétienne. Après, la suite, peut-être qu'il n'était pas trop, comment dire, trop motivé, trop bagarreur dans les choses de la vie. Allez, bon, sur la filière pastorale, et comme il était peut-être calme, bon, toi, tu vas être faire la théologie. Et il y en a aussi qui ils entrent là-bas parce qu'ils ont échoué ailleurs. Donc, allez, vas-y dans la théologie. Et puis finalement, il a le diplôme et on lui donne le poste à cause du diplôme. Ce n'est pas un appel de Dieu. Ce n'est pas une rencontre avec Dieu. Il y a des gens, parce que quand ils étaient petits, ils étaient forts dans la musique. Et donc, ils ont travaillé ça dans le monde aussi. Ils étaient forts dans la musique. Ils viennent dans le Seigneur. Il continue aussi dans la musique. Mais il n'y a pas eu un appel, un travail personnel avec Dieu pour te dire « Je t'attends dans la musique ». Il n'y a pas eu, il n'y a pas une relation personnelle. Et c'est ce qui fait qu'on produit plus de chrétiens de qualité d'aujourd'hui parce qu'il n'y a pas... Jésus n'est pas le sauveur personnel, mais c'est le sauveur du groupe. Et moi, je suis dans le groupe. Non, il faut un contrat personnel. Et quand Maurice Ray, on lui dit ça, il était humble. Il a dit, c'est vrai, je ne suis pas chrétien. À partir d'aujourd'hui, je veux le devenir. Je veux signer mon contrat avec Dieu. Et ils ont, le pasteur aîné a prié pour lui. Et quand le pasteur aîné a prié pour lui, le contrat était signé avec le ciel. Et cette nuit-là, quand il devait, avant de dormir, il a pris sa Bible, il a ouvert. Il est tombé sur Éphésiens 4, 11. C'est moi qui appelle les pasteurs, les docteurs, les apôtres, les évangélistes. C'est là qu'il reçoit l'appel du ciel. Il est directement oint. Et quelques jours après, il commence l'évangélisation. Et dans la rue, en Belgique, il y avait un paralytique qui lui a prêché l'évangile. Ensuite, il lui a dit, lève-toi et marche. Le paralytique s'est levé et a marché. Parce que là, c'était maintenant le contrat personnel, le sauveur. Donc, Jésus était devenu son sauveur personnel. Il savait que Jésus sauve parce qu'il avait sauvé lui-même. C'était pas un effet de groupe. Ce n'est pas une histoire de tradition, tu continues quelque chose. Non, tu marches avec quelqu'un, tu sais qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il dit, où il t'envoie. Jésus veut marcher avec nous personnellement, être notre sauveur personnel. Et il veut ça pour tous les humains. Il en a la capacité, contrairement à nos présidents d'aujourd'hui, nos rois, ils n'ont pas cette capacité-là. Ils ne peuvent pas nous connaître personnellement. Il y a un homme qui a compris ça. Cet homme, dans son parcours islamique, est devenu carrément le recteur, le responsable de la section de formation des imams dans une université d'Égypte. Un savant dans l'islam. Mais même s'il était savant dans l'islam, il n'était pas bien. Parce qu'il sentait que l'islam n'était pas bon. Mais comme il était en Égypte, on a dit l'effet de groupe. En Égypte, tout le monde est musulman. Alors moi aussi, je deviens musulman. Et si tu veux dire tes réflexions, tu as peur si tu dis tes réflexions, on va dire que tu es un faux musulman, on va te créer des problèmes. Du coup, il montait toujours en grade, mais dans son cœur, il n'était pas d'accord avec l'islam. Et il commençait à être perturbé, à chercher le véritable Dieu. Une fois même, un chrétien avait prié pour lui, il s'était bien senti. Mais il hésitait toujours. Il cherchait le véritable Dieu. Et il a dit, il a eu l'occasion maintenant, on lui a donné gratuitement le voyage à la Mecque. Il va à la Mecque. Il dit, alors là, je veux vraiment, là où Dieu se trouve, je vais le trouver là-bas. Il arrive là-bas, il fait le tour, vous savez, la pierre noire là. Il s'est dit, peut-être en embrassant la pierre noire, je vais trouver Dieu. Mais arrivé près de la pierre noire, il a trouvé beaucoup de salive, il était dégoûté. Il n'a pas pu embrasser ça. Il a fui. il a vu le mauvais caractère des Arabes, des Saoudiens, qui étaient méchants, qui trouvaient que tous les autres musulmans, c'était vraiment des saletés, quoi. C'était eux les vrais. Il a dit, mais ces gens-là, c'est eux qui sont censés être bons, mais ils sont méchants comme ça. Donc il était dégoûté. Et ça a continué à les dégoûter de l'islam. Et un jour, il a dit, Dieu, quand est-ce que je vais te trouver? Pas de réponse, pendant des mois. Un jour, il y a une voix qui lui dit, va aux États-Unis en vacances, va là-bas et tu me trouveras. Il a dit, alors là, c'est ma dernière chance. Il saisit, il va en vacances. C'était quelle année? 2001. Pourquoi je cite l'année? On va comprendre. Il arrive aux États-Unis. Il cherche Dieu. Rien. Et finalement, ses vacances finissent. On l'appelle d'Égypte, on dit, mais la rentrée est proche, là, il faut que tu reviennes. Du coup, il réserve son billet pour le 13 septembre. On est le 10. Donc le 13 septembre, il doit rentrer en Égypte. Il dit, oh, je n'ai pas trouvé Dieu, mais je prends le billet pour le 13 septembre. Et vous savez tous qu'est-ce qui s'est passé? Le 11. Vous savez, ce monsieur-là, il dit, je sais que ça peut, c'est, vous pouvez prendre ça différemment, mais moi, je considère que Dieu a fait le miracle du 11 pour moi. Vous voyez, un sauveur personnel. Lui considère que le 11 septembre, c'était pour lui. Toi, tu peux penser ce que tu veux. Tu peux dire c'est Ben Laden, c'est les terroristes. Tout ce que tu peux penser, lui, il sait que Dieu le connaissait. Dieu l'a fait pour lui. C'est ça un sauveur personnel. Il y a des gens qui sont, ah, mais c'est l'église. Ah, c'était le feu aujourd'hui. Mais non, c'est pas une question de feu. C'est qu'est-ce que Dieu t'a parlé à toi? Il a discuté avec toi. C'est pas une question, dans notre église, c'est chaud ou c'est froid. Non. C'est personnel. C'est personnel. Dieu se révèle à la masse, mais en se révélant individuellement à chacun. Il en a la capacité. Du coup, le 11 septembre tombe. Un Égyptien qui veut voyager le 13 et le 11 arrive. Déjà, il était dégoûté. Parce que le 11 le soir, il regarde les chaînes arabes. Qu'est-ce qu'il découvre? Les gens qui sont en train de sauter de joie par rapport aux 4000 personnes qui sont mortes. Il dit, mais c'est pas normal. Là, ça a achevé de le dégoûter de l'islam. Il a dit, c'est pas normal. On ne peut pas se réjouir de la mort des gens. Là, il a dit, non. Il a dit, je n'ai pas compris. Ma main s'est dirigé vers l'annuaire. C'était sa nièce qui l'accueillait, ou sa tante. Ma main s'est dirigée vers l'annuaire. J'ai commencé à chercher une église arabe aux États-Unis. Il a dit, je n'ai pas compris. J'ai noté deux numéros. Une à Washington, une à Maryland. Il a noté, il a dit, je n'ai pas compris. Mais j'ai noté. Le lendemain, il va au téléphone, il appelle l'église de Washington, répondeur. Il essaie l'église de Maryland, répondeur. Il dit, je vais tenter une dernière fois le soir. Donc le 11 septembre a fini par le dégoûter, par la, il dit, je ne voyage plus, en quelque sorte, je vais chercher encore. Le 12 maintenant, on est le 12. Maintenant il appelle le soir l'église de Maryland. Alors, il tombe sur un, il appelle, il se dit, ah, ça va être encore le répondeur. Mais non, cette fois-ci, quelqu'un décroche, un certain pasteur Moussa. Et le monsieur lui dit, bienvenue dans la maison de Dieu. Notre frère a dit, ça, ce n'était pas la voix d'un homme. C'était Dieu qui me disait, bienvenue dans sa maison. Il a dit, il m'a parlé, il m'a fait recevoir Jésus au téléphone. Quand j'ai raccroché, vous savez, il avait déjà dans les 50 ans, quand il a raccroché, il a dit, je sautais. Ma vie avait changé. J'ai trouvé le Seigneur de gloire. J'ai trouvé Dieu que je cherchais tant. Et aujourd'hui, cet homme a abandonné son poste de professeur aux États-Unis pour aller prêcher l'évangile dans le monde entier. Il a environ 60 ans, plus de 65 ans. Parce que Jésus est devenu son sauveur personnel et son maître personnel. Il marche avec lui. Bien-aimé, ne nous laissons pas voir par l'effet de groupe, par le prêt-à-porter. C'est sur mesure avec Jésus. Il peut exaucer tes prières à toi. Sur mesure. Vous savez, une fois nous avons eu, comme on fait des concerts, chaque 21 juin, on a la liberté ici en France de faire des concerts partout, chaque 21 juin. Bon, on demande quand même des permissions dans des places stratégiques comme la mairie. Et une fois, la mairie nous avait donné son accord. Et c'était en même temps la Coupe d'Europe 2008. Je crois, il y a une Coupe d'Europe qui a eu lieu en France. Voilà. De pays, de nations. Et alors que la mairie nous avait dit oui, ils ont fini par nous envoyer une lettre en nous disant « Mais oui, mais comme la France joue son dernier match qualificatif, donc finalement, si la France gagne, nous n'aurons plus la place, puisque le match suivant sera retransmis dans la place, sur la place où qu'on nous avait accordée pour chanter. Et si la France perd, eh bien nous aurons la place. » Ah ben moi, j'ai pris le micro, j'ai dit aux bien-aimés, vous savez comment on va prier. Je n'ai pas dit comment. Nous, on doit évangéliser dans cet endroit-là. Mais il faut que la France perde le match. Mais bien-aimés, ce genre de prière, on peut toujours dire, oh quand même, Dieu ne va pas faire ça pour un petit groupe comme nous. Faire perdre toute une équipe française pour un petit groupe comme nous. À quoi ça intéresse Dieu? Si ça l'intéresse, tu l'intéresses. Tu l'intéresses. On a quand même prié. On a dit qu'ils perdent. Mais après, on a souffert. Quand on a vu comment ils ont perdu. Parce qu'ils ont perdu injustement. Déjà, il y avait un faux carton rouge contre la France. Deuxièmement, ils ont subi un pénalty injuste. On a senti qu'il y a une force qui les a fait perdre. Et ils jouaient bien. Ils avaient de bons joueurs. Mais ils ont perdu. Parce que nous, on devait faire le concert à Rouen. Dans un endroit inconnu, par des groupes de chrétiens inconnus. Mais qui étaient connus de qui? De Dieu. Personnellement, on a dit à Dieu, nous voulons cette place-là. Toi-même, tu sais ce que tu vas faire pour qu'on ait cette place-là. La France a perdu, nous on a fait le concert. Parce que Dieu est tout puissant. Qu'est-ce que le football devant la gloire de Dieu? Devant le salut des âmes. Le Seigneur veut être notre sauveur personnel, notre compagnon de marche personnel. Tu discutes avec lui de tes projets, tu marches avec lui. C'est ce qu'il veut être. Il veut te sauver personnellement. C'est à toi de choisir. Seigneur, notre Dieu, le Seigneur notre Dieu est bon. Il te connaît. Et il veut qu'il y ait un échange personnel, un fonctionnement personnel. Nous allons prier le Seigneur. Éternel grand Dieu, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons de ce que tu nous parles encore aujourd'hui, de ne pas négliger de marcher avec toi personnellement. Chacun avec toi, Seigneur. Même si tu es parmi nous dans le groupe, même si tu es dans la foule, Seigneur, mais que chacun saisisse l'opportunité d'être près de toi pour tout dire, pour tout demander. L'opportunité d'être près de toi pour aller plus loin encore. Cette femme s'est dit, Seigneur, si je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Ô Seigneur, que chacun de nous et penche son cœur, te parle aujourd'hui pour te dire, Seigneur, j'ai besoin de toi dans tel domaine, dans tel domaine. J'ai besoin de toi. Déjà, on a besoin de toi pour tout, mais on peut tout dire aussi, les petits domaines, les grands domaines, en parler. Tu es là, tu es notre sauveur personnel, individuel. Même si il n'y avait qu'un seul homme sur la terre, tu te serais laissé crucifier pour le salut d'une seule personne. C'est ainsi que tu es donc le sauveur de chaque individu. Et c'est ça qui te fait sauveur de tous. Mais tu es d'abord sauveur de chaque personne, Seigneur. Que nous puissions saisir cela, bénéficier de tout ce qui est lié à ce salut personnel, à du sur-mesure. Tu fais du sur-mesure avec chacun d'entre nous, Seigneur. Merci, ô Seigneur, pour ta parole. Nous prions que tu nous aides, Seigneur, à la mettre en pratique, à marcher avec toi, Seigneur, personnellement, individuellement. Nous nous attendons à toi, Seigneur, pour le reste. Aujourd'hui encore, sois notre salut. Aujourd'hui encore, que nous puissions marcher avec toi, te dire ce qui ne va pas dans nos vies, te dire combien nous avons du mal accepter ta volonté, du mal à croire en toi, Seigneur, te parler, Seigneur, que nous puissions signer le contrat personnel avec toi. Seigneur, amène-nous à cela. Amène-nous à ne pas nous laisser dans le général. Puisqu'on dit qu'il y a crise économique en France, allez, nous tous, on commence à trembler. Non, Seigneur, tu peux nous sauver, nous, personnellement, même s'il y a la crise pour tout le monde. Individuellement, on peut ne pas vivre ça. Même si dans notre famille, tout le monde a telle maladie héréditaire, nous, on peut être l'exception. Parce que tu es notre sauveur personnel. Même si parmi nos amis, personne ne se marie, nous, on peut être l'exception. Même si parmi les chrétiens d'aujourd'hui, tous, ils sont dans la plupart sont dans la doctrine de la prospérité, la doctrine de l'élévation humaine. Seigneur, nous, on peut être comme les Daniel, qui n'ont pas cherché leur élévation. Qui, Daniel, Seigneur, avait le courage de dire au roi, laisse-nous 2 jours. Le roi a fait un rêve que personne n'arrivait à voir. Et il cherchait non seulement ce que les gens retrouvent son rêve, mais qu'ils en donnent l'explication. Et Daniel, ton serviteur, a dit au roi, donne-nous 2 jours. Nous allons consulter notre Dieu. Daniel était conscient que tu es le Dieu qui parle, qui répond. Et il pouvait te consulter. Et tu pouvais parler. Tu étais son Dieu. David dit, l'Éternel est mon berger. Pas seulement le berger d'Israël, mais son berger personnel, Seigneur. Nous voulons entrer dans cela. Que tu sois notre berger personnel, notre sauveur personnel. Et que nos vies soient transformées par l'appel, par la discussion que nous allons avoir avec toi à chaque fois. Que nos vies soient toujours transformées de gloire en gloire. Ô Seigneur, merci pour ta fidélité, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.